Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de C'est quoi ta spécialité? Aujourd'hui, on était vraiment chanceux, on en a eu deux pour le prix d'un. Donc, on a une médecin légiste, Dr Baudouin-Pagé, et également un de ses résidents, Dr Hudon, qui est R5 avec l'UDM, qui commence présentement sa surspécialisation en psychiatrie légiste.
Oui, puis je pense que ça ajoute vraiment, en tout cas, quand on a deux invités, je trouve que la dynamique est vraiment bonne, puis c'était vraiment un bon épisode, là, je sais qu'on dit ça à chaque fois, mais là, c'en était un d'exception, là, je dois dire. Tu sais, d'entendre parler de cette spécialité-là qui est un peu dans l'œil du public, tu sais, qu'on entend beaucoup d'opinions par rapport à ce métier-là, mais là, d'entendre leur point de vue professionnel, puis d'entendre, tu sais, que leur connexion avec leurs patients, tu sais, ce qu'ils aiment le plus dans leur day-to-day. Ouais, on a beaucoup appris, puis on a beaucoup apprécié. Fait que bon épisode!
Bon épisode! On aimerait prendre un petit moment avant l'épisode pour remercier nos commanditaires Archer, qui nous commanditent maintenant pour la troisième saison d'affilée.
C'est pas rien.
Ouais. Donc, Archer, c'est une firme de finance qui est vraiment spécialisée en les étudiants en médecine puis pour les médecins. Donc, qui offre un service qui est clé en main, qui est simple, qui vous permet d'avoir un premier rendez-vous gratuit. Donc, en bref, si vous avez des questions, c'est vraiment la place où aller. Ils savent de quoi ils parlent.
Ouais, puis les rendez-vous sont gratuits pour les étudiants en médecine. Fait que pour vrai, tu sais, prends ton rendez-vous, le lien est en dessous de la vidéo, puis ils vont répondre à toutes tes questions sur comme la marge de crédit, les prêts et bourses, les placements que tu aimerais peut-être faire. Fait que avoir leur un petit message. Merci Archer.
Parfait. Donc, merci beaucoup, Dr Baudouin-Pagé et Dr Hudon, d'être venus nous rencontrer aujourd'hui. On apprécie beaucoup. Donc, nous, on aime ça commencer du début. Fait que, est-ce que vous saviez depuis toujours que vous vouliez aller en médecine? Je ne sais pas lequel d'entre vous veut commencer.
Toi? Je vais y aller. Alors, je vais faire mon coming out. Jeune, je voulais aller en médecine parce que mon idole, c'était Patrick Roy. Fait que je voulais être médecin du Canadien. C'est comme ça que j'ai voulu aller en médecine initialement. Puis avec le temps, ben j'ai changé. Et là, j'ai changé aussi. Je voulais aller peut-être en musique. Fait que j'ai commencé vraiment dans une autre branche au cégep. Puis finalement, je suis revenue à mes premiers amours et j'ai appliqué pour la médecine à l'université. Donc, j'ai un peu dévié de la route, mais c'est revenu vers la médecine.
Moi, j'ai eu un parcours un petit peu atypique, là, dans le sens que, bon, secondaire, j'avais un petit peu cette idée-là de la médecine sans vraiment savoir c'était quoi la médecine. Donc, tu sais, on a des petits rêves, des projets et autres, mais sans savoir trop d'où ça vient. Puis cégep, ben, ça a été le fun, le cégep et tout, mais j'avais pas les notes pour la médecine. Puis j'ai découvert une passion, j'aimais beaucoup les mathématiques, la physique et autres. J'ai rentré en ingénierie logicielle. Fait que j'ai fait tout un choix de carrière, une branche, mon bac, ma maîtrise en ingénierie logicielle. Puis pendant ce temps-là, j'ai un de mes petits frères qui a commencé sa médecine à l'Université de Sherbrooke. Puis là, je le voyais aller, je voyais son parcours et tout. J'étais comme, mon Dieu, je suis en train de passer à côté de ça. Fait que ça a trotté beaucoup dans ma tête. Puis à un moment donné, bien, je me suis lancé, j'ai fait le saut, changement de carrière, en me disant, je vais commencer, on va voir la première année. Si ça se passe bien, on continue et tout. Puis je suis en amour avec la médecine depuis ce temps-là.
Wow, quand même, c'est un beau parcours.
Est-ce que vous aviez travaillé un peu avant d'appliquer ou c'est direct après la maîtrise?
J'avais fait des stages rémunérés. J'avais enseigné à l'Université Concordia comme auxiliaire à l'enseignement, une couple de cours en ingénierie logicielle. Puis j'avais travaillé pour une compagnie de jeux vidéo qui était situé au Massachusetts. Donc, c'était à distance. J'ai un parcours très atypique. Donc, c'est ça.
Puis, en rentrant en médecine, est-ce que vous étiez « Ah oui, c'est dans la psychiatrie dans ce que je veux aller » ou ça s'est découvert un peu plus tard?
Pas du tout pour moi. Je pense que quand j'ai appliqué en médecine, je me suis dit « Bien, je vais voir en fait qu'est-ce qui s'offre à moi. » Puis, j'avais toujours un certain doute si c'était vraiment ma place, parce que, ben tu sais, j'avais été en musique, j'aimais les sciences sociales aussi, puis fait que je me disais, ah, je suis pas certaine que je suis vraiment à ma place en médecine, puis finalement, j'ai fait les 3 années avant d'embarquer dans l'externat, puis là, j'ai fait mes stages, j'aimais tout ce que je faisais, mais encore là, j'étais pas certaine vraiment de mon domaine, puis je me questionnais encore, je suis vraiment dans la bonne place pour moi, puis là, j'ai fait un stage en psychiatrie. Puis là, ça a comme été une révélation où je me suis dit, bien, enfin, on dirait que ça marie tous mes intérêts dans la vie. C'est comme, je me sens à ma place. Puis à partir de ce moment-là, c'est comme, pour moi, c'était clair que je voulais aller en psychiatrie puis que j'avais fait le bon choix d'aller en médecine.
Puis qu'est-ce que vous avez aimé particulièrement, justement, de la psychiatrie?
Bien, tu vois, moi, j'ai toujours aimé me faire raconter des histoires. Puis j'ai toujours aimé lire et entendre les gens me parler de leur vie puis tout ça. Puis pour moi, la psychiatrie, c'était un peu ça. Puis ça m'a super gros fascinée de me dire, tu sais, tu t'assois devant quelqu'un que t'as jamais vu ou avec qui t'as pas tant de lien que ça, puis là, tu t'assois, puis il te raconte toute sa vie. Puis tu as beaucoup de liberté aussi d'être toi-même, de comment tu vas interviewer les gens. C'est tout le temps un peu, il y a quelque chose d'artistique là-dedans aussi, je trouve.
Trouver son style.
Exactement. Mmh. Puis, on ne fait pas juste suivre des guidelines. T'sais. Je me disais, ah, t'sais, peut-être, par exemple, en cardio, ben, je vais peut-être être tannée à un moment donné de, t'sais, j'ai un infarctus, je le traite toujours un peu plus ou moins de la même façon. Là, je trouvais que t'sais, chaque dépression était unique parce que tu as toute l'histoire de la personne, tu essaies de comprendre comment, t'sais, sa personnalité, qu'est-ce qui fait qu'en est arrivé là, d'adapter le traitement à qui il est. Fait que ça, pour moi, ça, je me suis dit, je ne vais jamais me tanner de faire ce métier-là. Puis, c'est effectivement le cas. T'sais, je trouve qu'à chaque fois qu'on voit des patients, c'est toujours une découverte. Puis comment on va l'aborder, ce patient-là, des défis de comment on va amener à créer un lien. Puis je trouve ça encore, après, ça commence à faire plusieurs années, puis je trouve ça encore aussi intéressant.
Ouais. Non, ça doit vraiment rendre ça unique, c'est ça. Chaque interaction est comme via la personne.
Exactement.
C'est à chaque fois des expériences différentes. C'est vrai que ça doit moins être redondant au
quotidien. Tout à fait, oui.
Moi, de mon côté, il y a comme une bonne puis une mauvaise raison. La bonne raison, bien, à travers les cours de biologie puis de chimie et tout, je trouvais que la portion d'intégration qui me manquait, c'était le cerveau humain puis le lien entre le cerveau puis la psychologie. Je trouvais qu'on le voyait vraiment pas, puis j'étais vraiment curieux de savoir, bien, comment ça marche, cette machine-là. Fait que j'avais commencé à louer des livres de mon côté puis de m'informer là-dessus. Donc, il y avait un intérêt pour la psychiatrie. Mais là où il y a eu le plus gros intérêt, que j'appelle la mauvaise raison, moi, je suis un fan de séries télévisées puis de films d'horreur et tout. Puis je suivais la série Dexter, qui est très short, là. C'est un tueur qui tue d'autres tueurs. Puis dans une des saisons, il y avait une neuropédopsychiatre légiste qui s'appelait Dr. Evelyn Vogel.
Ouais.
Et ça me fascinait à savoir à quel point elle était capable. Donc, elle, c'était l'experte des meurtriers. C'était de refaire l'histoire, le parcours, puis de mettre un doigt sur c'est où que ça l'a changé de trajectoire, c'est quoi les traumatismes. Puis on parlait d'aspects psychologiques, on parlait d'aspects de trauma, on parlait d'aspects judiciaires, puis on parlait aussi de neuroanatomie. Donc, ça m'a mis la puce à l'oreille. Hey, c'est possible d'intégrer tout ça ensemble. Puis, je suis rentré un peu en médecine avec cette conception-là de la psychiatrie qui était une conception erronée, mais que je suis quand même content de l'avoir eue parce que je me suis dit, je vais commencer mon externat à Pinel, je vais faire un mois, qui est un institut de psychiatrie légale avec des cas assez lourds, en me disant, si j'aime ça, ça va confirmer. Ça aussi, c'est assez erroné comme processus à penser. Mais bref, je suis rentré dans ce stage-là et là, c'est là que j'ai vu que la psychiatrie, c'était pour moi, ça a été un déclic comme ça. Un peu comme disait Dr. Bordua-Pagé, ce temps-là qu'on prend avec les patients, ce qui est un temps très, très privilégié. Je trouve qu'en médecine, on nous dit beaucoup, bon, c'est d'intégrer toute la conception biologique avec le social, le psychologique. Puis c'est vrai pour toutes les spécialités. Sauf qu'en psychiatrie, c'est encore plus vrai parce que c'est un gros travail d'équipe. C'est un gros travail d'essayer de mettre en place les morceaux de casse-tête qui fait que notre patient, il est à ce point-ci dans le temps. Ce travail-là de fond, je trouve qu'on est privilégié de pouvoir s'asseoir avec le patient, de s'asseoir avec les proches, d'essayer de mieux comprendre. Donc, pour moi, c'est un beau challenge, autant sur le plan intellectuel que sur le plan de la carrière. Je trippe depuis que je fais ça.
Puis le processus CARM, ça s'est relativement bien passé pour vous deux, mettons?
Ben, vas-y.
Ben oui, si on est là aujourd'hui, oui, mais en fait, moi, j'hésitais entre la psychiatrie et la médecine familiale. Mais comme la psychiatrie a toujours été mon champ d'intérêt primaire, ben, c'est ça que j'avais classé en premier. Mm-hmm. J'étais parmi les chanceux qui l'a eu. Tu sais, il faut dire que le CARMS, on choisit pas toujours. Hein, on lance ça un peu au destin, puis les circonstances font qu'il peut arriver différentes choses qu'on aurait espéré, mais que malheureusement. Mais moi, j'étais parmi les chanceux mon année, donc moi, ça s'est bien
passé.
Vous
avez fait votre résidence où?
À l'Université de Montréal.
OK. Ouais.
Moi, c'était avant le CARMS, en fait. C'était quelques années avant que le CARMS soit mis en place au Québec, parce qu'il y avait le CARMS pour le volet anglophone, mais pas pour les universités francophones. Puis, j'ai appliqué en psychiatrie. Moi, je voulais vraiment être à l'Université de Montréal, puis finalement, j'ai pas été prise. Alors, des fois, ça arrive. Mm-hmm. Puis, donc, déception, mais j'ai fait ma résidence à Sherbrooke. Puis, tu sais, des fois, on dit dans la vie, il n'y a rien qui arrive pour rien. Puis, je pense que ça aussi, hein, tu sais, je pense que j'aurais probablement pas été en psychiatrie légale si j'avais pas fait ma résidence à Sherbrooke. Parce que là-bas, il y avait dans le programme un stage obligatoire de 3 mois en psychiatrie légale. Puis, c'est là que j'ai comme encore flashé. Un peu comme pour la psychiatrie, c'est quand j'ai fait mon stage de psychiatrie légale, je connaissais ça à peu près comme Dr. Hudon, là, pour les séries télé. Puis, j'aimais ça, écouter les séries télé policières, puis tout ça. Puis, je me disais, hey, ça peut être le fun, mais tu sais, sans plus. Puis c'est comme ça que j'ai flashé sur la psychiatrie légale. Fait que oui, ma médecine à Montréal, puis la résidence à l'Université de Sherbrooke.
Puis parlons-en là, de la psychiatrie légale. Ouais. Est-ce qu'on peut comme le décrire un peu, tu sais, c'est quoi que ça fait qu'un psychiatre légal, puis qu'est-ce que vous avez aimé là-dedans?
Oui. Mais en fait, la psychiatrie légale, c'est une sur-spécialité de la psychiatrie. Puis, il y a quand même plusieurs volets. Donc, il y a un volet qui est plus criminel. Donc là, c'est quand des patients vont avoir commis différents délits, puis que la cour, ou des fois, ça va être les avocats qui vont nous demander de faire des expertises. Donc, de regarder si la personne, dans quel état d'esprit elle était, soit au moment des délits ou au moment où elle passe en cour quand c'est pour l'aptitude à subir son procès. Donc, il y a ce volet-là qui est plus la psychiatrie criminelle. On peut avoir aussi de la psychiatrie légale des gens qui vont faire un petit peu plus du civil, donc des expertises, par exemple, sur des invalidités au travail ou pour des compagnies d'assurance et tout. Puis aussi, la psychiatrie a un volet qu'on appelle correctionnel. Donc, on le sait qu'il y a beaucoup quand même de patients qui souffrent de troubles mentaux en prison. Donc, il y a aussi des psychiatres qui vont aller travailler dans les centres de détention.
Comme Pinel, mettons.
Pinel, en fait, c'est un hôpital psychiatrique. Okay. Donc là, c'est des patients qui ont été, la majorité des patients, c'est des patients qui vont être là en expertise, donc sur ordre du tribunal, ou pour un traitement de réadaptation. Donc, une fois qu'ils ont été reconnus non criminellement responsables, puis qu'ils vont être détenus à l'hôpital pour recevoir des soins adaptés à leurs conditions.
Okay. Puis en prison, ce serait les gens qui ont été tenus criminellement responsables,
exactement,
mais qui ont quand même une condition psychiatrique qui peuvent
c'est
être
ça.
Traités puis aidés.
Mmh. Okay. Tout à fait, oui.
Puis, je me demandais, parce que j'ai vu parfois dans les stages, tout ça, que des psychiatres de l'hôpital allaient accompagner leurs patients en cours. C'est quand est-ce que vous accompagnez seulement vos patients ou c'est des personnes qui n'ont pas de psychiatre encore que vous faites contacter pour aller les représenter? Ou c'est comme si la ligne dans tout ça?
Bien, peut-être, pour démystifier, souvent, quand on va être appelé à aller en cours, ça va être pour différents contextes. Donc, un contexte pour lequel, moi, comme résident, en tout cas, j'ai été amené à aller en cours, c'est surtout pour ce qu'on appelle des ordonnances de soins ou des ordonnances d'hébergement. Donc, quand, malheureusement, le patient a un état de santé qui nécessite une médication, puis que, malheureusement, l'état de santé interfère avec sa capacité à bien reconnaître c'est quoi le traitement, les effets du traitement, sa maladie, les effets de la maladie, qu'est-ce que ça fait de ne pas être traité versus être traité, ou quand il y a un refus catégorique qu'on dit, le patient il dit non, puis il n'en veut pas et autres, souvent on est amené à apporter cette question-là à la cour. Donc, ce n'est pas le psychiatre qui répond à cette question-là, c'est un juge qui va se pencher là-dessus. Nous, comme psychiatre, on va émettre une expertise, une opinion en lien avec l'ordonnance de traitement, puis qu'est-ce que ce patient-là aurait besoin. Puis souvent, c'est un patient qui est sous nos soins, donc c'est un patient qu'on connaît. Il peut avoir des petites exceptions, mais le cas de figure, c'est que c'est un patient qu'on connaît bien, qu'on a en tête un peu la trajectoire de soins du patient et que cette étape-là est nécessaire à l'étape de soins. Notre volet, ça peut être dans le cadre d'expertise, comme Dr. Bordua mentionnait tout à l'heure. Donc, pour le volet de la responsabilité criminelle, donc il y a un acte criminel qui a été commis. Est-ce que le patient était dans son état habituel? Donc, est-ce qu'il est responsable? Pour faire ça un peu vulgarisé. Puis de l'autre côté, est-ce qu'il y avait un état mental avec un problème, relié à un problème de santé mentale au moment des faits qui explique mieux ce qui s'est passé? Il y a aussi des expertises au niveau de l'aptitude, donc d'être capable d'aller en cours. Est-ce que mon patient est apte à comparaître devant le tribunal? Donc, est-ce qu'il comprend de quoi il est accusé? Est-ce qu'il comprend c'est quoi un avocat de la défense? C'est quoi un avocat de la couronne? Est-ce qu'il comprend c'est qui le juge? C'est quoi les issues possibles de son procès? Puis est-ce qu'il est capable même d'être présent à son procès? Donc, ce qu'on appelle être présent dans le décorum, puis aussi de parler aux différents acteurs de la cour. Donc, ça, c'est le genre d'expertise où des fois, il y a certains membres, tu sais, par exemple, le juge ou les avocats qui vont se poser cette question-là, qui vont demander au psychiatre, on a besoin de votre expertise pour avoir une opinion professionnelle sur ces questions-là.
OK. Sinon, peut-être pour complémenter, là, il y a aussi un tribunal qu'on appelle le Tribunal administratif du Québec, la Cour, la Commission d'examen des troubles mentaux. Donc, tantôt, on parlait de la psychiatrie plus criminelle là, au niveau des expertises, mais une fois que ces patients-là, ils ont été reconnus non criminellement responsables, bien, ils continuent à être suivis, mais par un tribunal spécialisé. Fait que ça, c'est un autre tribunal auquel on va quand même régulièrement pour nos patients. Donc, tu sais, à l'Institut universitaire en santé mentale où je travaille, moi, on a une unité où on a juste des patients en détention. Donc, un peu comme à Pinel, mais avec un niveau de dangerosité un peu moindre. Puis là, ces patients-là, bon, on les suit pendant leur séjour pour les amener à mieux gérer leur dangerosité pour leur permettre, dans le fond, de retourner après ça dans la communauté.
Puis, admettons, un patient, en moyenne, est-ce que vous le voyez, tu sais, sur le long terme ou c'est vraiment, tu sais, le jour de la cour? Tu sais, ça doit dépendre justement s'ils sont suivis après.
Exactement, c'est ça. Fait que c'est sûr que quand on fait des expertises, généralement, on n'est pas le médecin traitant du patient. Fait que ça va être plus à court terme. Parce que quand on a le rôle d'expert, dans le fond, il faut qu'on soit le plus neutre, objectif possible. Puis notre rôle, c'est d'aller éclairer le tribunal. Parce que, tu sais, le juge, lui, il va être... Le juge est obligé d'évaluer plusieurs causes dans plein de domaines. Fait qu'on peut pas lui demander de comprendre, tu sais, la psychiatrie, puis après ça, le droit immobilier, puis tout ça. Fait que, tu sais, il a besoin de quelqu'un qui est expert dans son domaine puis qui va pouvoir émettre une opinion. Donc ça, c'est une chose. Ces patients-là, souvent, on va les voir plus à court terme, mais nos patients en suivi, c'est des patients qu'on, souvent, on va les suivre quand même sur le long terme parce que c'est beaucoup des patients qui ont des troubles sévères et persistants, donc des maladies qui sont plus chroniques avec beaucoup de comorbidités. Donc souvent, on est dans le registre de la psychose ou de la maladie bipolaire avec de la toxicomanie, des troubles de personnalité. Donc c'est des patients qu'on va suivre, qui vont avoir un parcours de soins quand même long. Puis il y a une richesse à ça parce qu'on finit par bien les connaître aussi. Fait que, tu sais, c'est des patients qui, des fois, sont plus difficiles à aller chercher un peu, qui sont plus réfractaires aux soins. Puis on arrive à créer une alliance. Fait que quand on peut être là sur le long terme, souvent, ça peut avoir un impact positif dans l'évolution.
Puis c'est quoi les grosses différences, justement, que vous avez vues dans la réalité versus Dexter, là, que vous aviez en tête au départ, mettons?
Ben, je pense que... Il faut comprendre que l'être humain, c'est complexe. Donc, de penser que magiquement, tu sais, dans les films, séries télé et autres, il arrive un événement ou il arrive un traitement et tout est magiquement changé et tout. Non, non. Ouais. Sur le terrain, ça prend beaucoup de ressources, beaucoup d'intervenants, beaucoup de temps. Ça prend de la patience, puis ça prend aussi un lien. Souvent, avec nos patients, ce qui va être plus difficile des fois quand ils sont très malades puis qu'ils arrivent sur les unités, c'est de bâtir ce lien-là parce qu'il ne faut pas oublier que souvent, on parle de maladie mentale en psychiatrie, on parle de troubles psychotiques, mais il y a des personnes en arrière de ça. Puis c'est d'essayer de connecter avec cette personne-là. Et là, je trouve que ça, c'est le côté créatif de la psychiatrie parce que comme chaque personne est différente, c'est de voir, bien, ça va être quoi notre approche avec cette personne-là? Puis le plus souvent, quand on peut, mais c'est de l'impliquer dans ses soins. Donc, il y a des plans de soins qui sont différents d'un patient à l'autre. Puis ça, c'est toujours le volet que dans les séries télévisées et autres, on montre pas. C'est moins hot, ça. C'est moins... mais c'est très enrichissant, par exemple.
Surtout que, tu sais, je rajouterais que comme nos patients, ils vont être souvent sous nos soins parce qu'un tribunal a ordonné qu'ils soient sous nos soins. Tu sais, c'est pas des patients qui sont nécessairement tout le temps volontaires puis qui vont venir cogner à la porte, tu sais, puis dire « j'aimerais ça avoir des services ». Fait que ça amène comme un défi supplémentaire que moi, je trouve vraiment intéressant, tu sais, d'essayer d'aller connecter avec la personne puis d'aller trouver un objectif commun, tu sais, qu'est-ce qu'il veut dans son rétablissement puis d'arriver à dire « ben tu sais, on va travailler ensemble là-dessus, même si t'as pas le goût de me voir, t'as pas le goût d'avoir mes soins. » Mais on va quand même essayer de bâtir quelque chose. Puis, tu sais, quand ça fonctionne, c'est vraiment, vraiment enrichissant.
Est-ce que ça arrive des fois qu'il y a juste, tu sais, c'est comme frapper un mur, il n'y a pas d'approche, on ne sait pas par où passer, il y a toujours des solutions?
Ça arrive. Ouais. Il faut être très humble, je pense, dans la pratique de la médecine. Tous les patients ne fonctionnent pas comme dans les livres, puis ça, peu importe que ce soit en psychiatrie ou partout ailleurs. C'est juste qu'en psychiatrie, des fois, le volet, je parlais d'alliance, des fois, il y a des mauvais fits. Puis, c'est pas de la faute de personne, mais il faut tenter une autre approche. Donc, ça arrive que des fois, on va faire appel à un autre collègue ou que le patient va faire appel à un autre collègue. Puis, c'est correct. Il faut l'accepter. Puis,
je pense que, tu sais, quand on choisit dans la psychiatrie, il faut aussi être humble, effectivement. Il faut avoir une bonne tolérance à l'incertitude aussi, puis une bonne capacité toujours de se remettre en question, tu sais, ne serait-ce que pour le diagnostic, parce que des fois, on voit quelqu'un à un moment précis, puis on pense qu'il y a un diagnostic, puis avec le temps, finalement, hop, ça évolue, tu sais, la personne évolue, il peut y avoir d'autres choses, d'autres symptômes qui apparaissent et tout. Puis, donc, être capable de se remettre en question régulièrement. Puis là, j'ai perdu le fil de ce que je disais.
Ben, j'ai une question.
Je l'ai retrouvée. Puis il faut aussi comme adapter nos attentes. T'sais, parce que des fois aussi, quand on commence, puis on a des belles attentes, puis on a des objectifs pour les patients, puis on va faire ça. Puis il faut toujours se rasseoir, puis se reposer la question, tu sais, OK, mais là, je travaille-tu pour mes objectifs à moi ou ce que le patient veut, puis être capable aussi de prendre des petits succès. Parce que tu sais, si on se met la barre haute, bien, on va vivre beaucoup de déceptions, je pense. Mais tu sais, quand on se met la barre un peu moins haute puis qu'on est capable de savourer les petites victoires, bien, on en retire beaucoup de satisfaction.
Vous avez mentionné aussi ce qui m'a puis qu'il aurait là, être bon avec l'incertitude.
Ouais.
J'ai l'impression que le domaine que vous faites, c'est un peu un domaine aussi que parfois il peut avoir des conséquences. Quand même, l'autre, il peut arriver si vous prenez une mauvaise, pas nécessairement une mauvaise décision, mais j'ai l'impression que c'est impossible de toujours prendre la décision parfaite, entre guillemets. T'sais. Comment que vous vivez avec ça, le fait que comme il y a quand même des gros impacts puis des gros changements à
mais
ce que ça va apporter.
Il n'y a aucun être humain qui va toujours prendre des décisions parfaites.
Oui, exact.
Puis je pense que même la Cour n'exige pas non plus des décisions parfaites, dans le sens que quand on est mandaté pour faire une expertise, bien, tu sais, on n'est pas dans... Est-ce qu'on est sûr à 100 %? On va dire, bien, est-ce qu'on pense qu'il y a plus de chances qu'il était malade puis que ça l'a affecté, tu sais, sa capacité à apprécier qu'est-ce qu'il faisait, à comprendre les conséquences? Fait qu'on ne nous demande pas d'être sûr à 100 %. Puis je pense qu'il ne faut pas avoir peur de l'énoncer non plus, tu sais. Puis c'est là qu'on peut se faire prendre, probablement plus quand on est trop sûr de nous puis qu'on ne se remet pas en question puis qu'on est comme... C'est ça, puis c'est ça. Je pense que c'est là qu'on on peut plus vivre, dans le fond, des moments plus difficiles. Mais quand on est capable d'être humble puis de l'énoncer, si on n'est pas sûr, on n'est pas sûr, puis de demander l'opinion de collègues aussi. Mm-hmm. Entre nous, moi, je le demande, j'ai des collègues dans mon service, ben, je vais leur demander, écoute, là, je suis un peu dans une impasse avec tel patient, je suis plus sûre de ma conduite, puis tout ça, qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'il faut être capable aussi de reconnaître nos limites, mais il ne faut jamais en médecine s'attendre à faire juste des décisions parfaites parce qu'on est drillé à ça, mais c'est impossible, tu sais.
Mais la question est intéressante parce que c'est vrai qu'en médecine, tu sais, on n'a pas de cours sur gérer l'incertitude. On nous en parle, ça va arriver, puis on espère que ça n'arrivera pas à moi.
Ouais, c'est ça.
Ou, non, si je suis les guides de pratique, ça va être parfait. Puis là, whoops! Là, le patient, il ne suit pas ce qui est dans le guide de pratique. Ça n'arrive pas, ça. Donc, qu'est-ce que je dois faire et tout? Donc, c'est sûr que cette incertitude-là, la tolérance à l'incertitude, ça prend du temps, puis c'est quelque chose qu'on développe à travers le temps. Donc, c'est normal de vivre un inconfort à travers le parcours. Ce qui est incertitude aussi, il faut faire attention, parce que ce n'est pas parce qu'on ne sait pas d'emblée la solution non plus à un problème qu'il n'y aura pas d'amélioration. T'sais, des fois, il faut se permettre de se lancer puis d'essayer des choses. Puis, j'en profite, là, souvent avec la psychiatrie, il y a un certain stigma de la science est à peu près, il reste tellement de choses à découvrir. Il y a quand même des assises très bonnes en psychiatrie où il y a des évidences neuroanatomiques, il y a des évidences au niveau des neurotransmetteurs. Notre médication, il y a plusieurs études. C'est sûr que c'est pas parfait, puis c'est pas comme dans d'autres domaines, mais il y a quand même des balises claires pour nous guider à travers le parcours. Donc, c'est pas vrai que les psychiatres vont être portés à faire ce qu'ils veulent et autres, pas du tout. On a quand même de l'aide, mais c'est ça. Tu sais, faut rester humble, faut être prêt à demander de l'aide, puis il faut travailler en équipe. Tu sais, la psychiatrie, c'est un domaine d'équipe. Malheureusement, puis là, j'en vois pas une flèche aux collègues qui travaillent solo comme psychiatre, pas du tout. C'est juste que dans un système parfait, je pense que tous les patients bénéficieraient, et tous les psychiatres aussi, d'un travail en équipe avec plusieurs professionnels différents. Malheureusement, comme tout système, ben, le nôtre a des limites. Donc,
Puis si on va justement dans le processus spécifique de décider si quelqu'un, mettons, est criminellement responsable ou pas, combien de psychiatres sont inclus dans ce processus-là? Puis c'est quoi qui est pris en considération, mettons?
Mais ça, c'est un travail vraiment intéressant à faire aussi, parce que dans le fond, ben, généralement, c'est un psychiatre qui va faire l'expertise, qui est mandatée. Souvent, ça va dépendre après ça dans quel contexte c'est demandé. T'sais, si le patient, par exemple, est admis à l'hôpital pour être expertisé, bien là, c'est sûr qu'il va avoir le personnel hospitalier aussi, les infirmières, criminologues et autres de l'unité, les préposés, puis le psychiatre. Quand c'est demandé plus dans un contexte privé, par exemple, des fois, je peux aller faire des expertises en prison, donc tu rencontres quelqu'un qui est détenu, prévenu avant son procès, bien là, c'est sûr que tu as moins de collègues ou d'autres personnes pour te guider là-dedans. Mais quand tu fais les expertises, en fait, ça, c'est ce qui fait la beauté, je trouve, aussi de la psychiatrie légale. Parce que je parlais, tu sais, quand tu arrives en psychiatrie, il y a comme un petit plus de tout le volet aussi de sciences sociales, d'art et tout ça. Mais quand tu arrives en psychiatrie légale, c'est là que tu as toute l'interface avec le monde juridique, tu sais, puis le monde policier. Fait que quand tu fais une expertise, bien, tu sais, tu regardes ton patient, mais il faut aussi que tu collectes toutes les données du rapport, des rapports policiers, tu sais, fait que d'aller voir qu'est-ce qui s'est passé, parce que souvent, il va être décrit par les témoins, comment il était dans la période qui entoure les délits. Tu vas regarder les interrogatoires vidéo pour voir, tu sais, quand il s'est fait interroger par les policiers, puis là, on essaie de trouver des signes, tu sais, est-ce qu'il était comme... Il avait l'air complètement normal, mais il répondait correctement aux questions, ou est-ce qu'il avait l'air vraiment délirant, puis tout ça. Fait que c'est vraiment un travail d'enquête pour poser un diagnostic, premièrement, parce que des fois, ça peut être un individu qui n'a pas eu de diagnostic avant les délits. Puis après ça, de vraiment essayer de bien comprendre de façon rétrospective dans quel état il était à ce moment-là. Fait que c'est vraiment super stimulant.
Mm-hmm. Puis dans l'air des... Oh, excusez, allez-y.
Non, mais j'allais juste rajouter des fois, tu sais, pas toujours, mais des fois, ça se peut qu'il y ait une demande de contre-expertise. Fait que c'est à ce moment-là qu'il va y avoir plus qu'un psychiatre impliqué. Ouais. L'autre psychiatre va faire le même travail d'analyse de son côté pour voir est-ce qu'on arrive aux mêmes conclusions ou non. Là, dans le fond, encore une fois, c'est des opinions d'experts. C'est le juge qui tranche, là, au final.
OK. C'est ça, c'est... Est-ce que ça c'est déjà arrivé qu'il y a des juges qui sont allés contre votre expertise?
Jamais. Non, c'est pas vrai. Mais la réalité, c'est qu'on le sait pas tout le temps, tu sais, parce que des fois, ça, c'est ce qui peut être plate un peu, c'est qu'on nous demande pour faire une expertise, puis des fois, on le sait même pas l'issue après, tu sais, ça se peut que l'avocat nous demande pas, tu sais, nous informe pas et tout. Mais je pense qu'encore là, tu sais, dans la capacité de se remettre en question, puis d'être humble, puis tout ça, tu sais, ça se peut que... T'sais, on dit la psychiatrie, comment ça se fait que deux personnes peuvent avoir une opinion différente, mais t'sais, c'est pas tout est noir ou blanc, puis il y a des zones de gris, puis des fois dans la zone grise, on peut l'interpréter différemment. C'est comme ça aussi pour plein de domaines, hein, parce que la cour, comment ça fonctionne, c'est deux positions adverses. Mmh. Fait que t'sais, nécessairement, c'est toujours des gens qui, entre guillemets, s'affrontent ou qui ont des positions différentes. Fait que ça peut arriver que quelqu'un va interpréter les symptômes puis l'état en disant, ben finalement, non, moi, je pense qu'il était criminellement responsable puis que le juge, finalement, il va trancher quelle position qui est le plus probable, tu sais, donc 50 % plus 1. Mm.
Puis je me demandais, aujourd'hui, dans les dernières années avec les réseaux sociaux, tu sais, est-ce que ça a influencé votre travail? Parce que j'ai l'impression que les gens mettent plus d'avant leur opinion puis qu'est-ce qui devrait être fait. Tu sais, vous, en faisant votre travail, en essayant de pas biaiser, mais en voyant tout ça, comment que vous jonglez avec ça?
C'est une bonne question.
C'est une très bonne question. Je pense que dans le rôle, autant que comme expert que comme clinicien de façon générale, c'est toujours garder une partie d'objectivité. Donc, tu sais, tout le monde a le droit à son opinion. Certaines personnes, puis on le voit souvent dans les médias quand il arrive un événement tragique, on va dire, mais tu sais, là, les psychiatres, ils travaillent pas, ou le système de justice, ils émettent tout non responsable, il n'y a pas de judiciarisation et tout. Il faut faire attention entre le média populaire, ce qui est véhiculé, puis le fond. Puis le fond, tu sais, en psychiatrie légale, il y a certaines études, il n'y a pas énormément d'études actuellement, mais il y en a qui expliquent certains mouvements, certaines trajectoires de soins, certains devenirs de patients et tout. Donc, je pense qu'il faut faire attention entre le populaire puis ce qui est appuyé par les bases scientifiques. Mm-hmm. Fait que je ne sais pas, tu sais, je me pose pas la question quand je fais mes analyses puis quand je rencontre mes patients. Mais c'est vrai que des fois, ça peut être lourd de dire, on vient de travailler une journée, on a vu une dizaine de patients, des cas complexes, des cas différents. Puis là, on lit sur Facebook, tu sais, ah oui, de toute façon, les psychiatres, c'est pas de la vraie médecine et autres. Fait que des fois, ça peut être lourd sur le travail. Mais je pense qu'encore une fois, l'important, c'est de faire ce qu'on aime. Puis il y a toujours qu'est-ce qui pèse le plus dans la balance. Donc...
Je pense que c'est aussi de saisir quand on a des opportunités de faire de l'enseignement, tu sais, puis de vulgariser, tu sais, dans des articles de journaux ou auprès des étudiants, des gens qu'on côtoie, tu sais, je pense parce qu'il y a beaucoup de préjugés, effectivement, puis les gens, ils pensent que c'est donc facile, tu sais, tu t'en sors en étant non criminellement responsable, puis t'as pas de conséquences, puis c'est pas ça du tout, là, puis pour beaucoup de patients, ils ont des sentences beaucoup plus lourdes, fait que je pense que c'est plutôt d'essayer de saisir les occasions de rectifier les faits un peu, puis de faire de l'éducation populaire, mais c'est ça.
Puis, tu sais, justement, de votre point de vue, pourquoi c'est important qu'il y ait cette option-là d'être non criminellement responsable, tu sais?
Bien, en fait, tu sais, les quelques études qu'on en a pas beaucoup, mais ça démontre quand même que la personne qui a commis des délits parce qu'elle était malade, bien, sa place, c'est beaucoup plus d'avoir accès à des soins parce qu'on a un meilleur impact sur le taux de récidive. Donc, tu sais, il y a des études qui ont été faites au niveau des trajectoires dans les provinces au Québec puis au Canada, puis qui démontraient que les patients non criminellement responsables qui étaient pris en charge par le système de santé, bien, il y avait un taux de récidive plus faible que ceux qui étaient en prison. Donc, ça leur permet d'avoir accès à des soins. Puis ça, ben, c'est un peu la base, dans le fond, de notre système aussi. Puis de pouvoir leur permettre de redevenir plus autonomes, intègres. Puis donc, c'est pour ça que je pense que c'est quand même essentiel dans notre système de justice et de santé également.
Ouais. Puis, tu sais, il y a par rapport aux soins, mais il y a tout l'aspect de la dangerosité puis du risque. T'sais, on parlait du risque de récidive, mais Est-ce qu'un patient, par exemple, qui a une grande désorganisation comportementale à cause, je ne sais pas moi, qui est en psychose, bien, c'est sûr que si je ne fais rien avec cette psychose-là, il y a quand même des enjeux, autant, tu sais, sur le plan de son épanouissement social à lui ou elle, tu sais, de se replacer en société, de pouvoir occuper un emploi ou d'avoir une certaine stabilité, que ça peut passer sous le radar longtemps quand ils ne sont pas dans le système de soins. Donc, des fois, ça permet aussi, même si il y a tout un cheminement légal, il y a toutes des expertises qui passent autour de ça, c'est de dire comment je permets une réadaptation, puis comment je permets que ce patient-là puisse aller au meilleur de son potentiel à lui ou à elle.
Puis, tu sais, pour protéger le public, dans le fond, c'est ça qu'on veut, le moins de récidive.
Exactement. Tu sais, puis je pense que c'est là qu'il faut faire attention avec les médias puis les événements qui arrivent et tout ça, parce que, tu sais, l'association est facile de faire, le malade est dangereux, tu sais, puis c'est pas le cas. Mais on le sait, par contre, que quand quelqu'un a des symptômes de psychose active qui sont pas traités, qui a pas de prise en charge, bien là, oui, il peut y avoir un risque plus grand de commettre des gestes violents, parce que, tu sais, c'est sûr que si t'es aux prises avec des idées, que t'es convaincu que tout le monde t'a vu du mal, puis que t'entends des voix qui te donnent des ordres de te défendre, bien, tu sais, ça se peut qu'à un moment donné, tu passes à l'acte. Fait que, tu sais, c'est vraiment de s'assurer qu'on offre des soins. Puis ces patients-là, des fois, surtout comme en début de maladie, bien, ils sont pas nécessaires, ils comprennent pas qu'ils font une psychose, puis c'est pas eux qui vont aller sonner aux portes de l'urgence pour dire « je suis en psychose, j'ai besoin d'un traitement ». Fait que, tu sais, des fois, c'est vraiment la porte d'entrée dans le système. Puis avec des membres de l'entourage, des membres de la famille, tu sais, qui sont un peu à bout, puis que ça prend un délit comme ça pour que la personne ait accès. Tu sais, dans un monde idéal, je pense qu'on serait capable des traiter puis de les prendre en charge plus tôt. Mais, tu sais, en ce moment, il y a quand même une proportion de patients que c'est comme ça qu'on est capable d'attraper puis d'offrir, à qui on peut offrir des soins.
Puis vous avez parlé de dangerosité, puis je me souviens quelque chose qui m'a un peu marqué dans nos cours. Vous nous avez dit comment les personnes atteintes de maladie mentale avaient plus de genre risque de eux subir de la violence que de faire la violence. Fait que je trouvais que c'est une stat quand même qui parlait beaucoup, qui était comme toute la misconception un peu, désolé mon anglicisme, dans la société de...
Oui. C'est vrai, on parle beaucoup, tu sais, du risque que ces personnes-là soient violentes, mais, tu sais, ils sont vraiment à risque d'être victimisés aussi beaucoup, là, tu sais, ils ont plus de risque d'être tués, d'être malades aussi physiquement, de vivre dans des conditions de vie qu'on voudrait pas, là, pour nos proches ou pour nous-mêmes, fait que je pense qu'effectivement, on peut avoir vraiment un gros impact.
Puis dernière question pour, tu sais, la perception du public, peut-être, mais... T'sais, j'ai l'impression que j'entends des fois que tout le monde va s'essayer de passer comme criminellement non responsable. Est-ce que dans la réalité, vous voyez beaucoup ça, des gens qui sont vraiment pas atteints de maladie mentale, mais qui vont dans le processus d'être mis non criminellement responsable?
Mais on dit que c'est 1% à peu près des causes aux criminels seulement, où la non-responsabilité criminelle est soulevée. Fait que, on peut vraiment pas dire que c'est une majorité des cas. Là. Donc...
Il faut comprendre que c'est une défense aussi. Hein? Donc, il y a quand même, quand on lève le drapeau en disant « ça prendrait une expertise à ce niveau-là », c'est qu'il y a une inquiétude qui vient de quelque part, tu sais, puis on va répondre à cette inquiétude-là. Mais c'est ça, c'est une minorité, là. Contrairement à certains mythes et légendes qu'on entend. Là.
C'est sûr que, tu sais, il y a eu des différentes causes de meurtre ou de délits plus graves où la question s'est posée. Puis je pense qu'en même temps, je reprends Dexter puis tout ça, bien, tu sais, c'est sûr qu'on va se questionner qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de quelqu'un qui a commis l'irréparable. Fait que je pense que, tu sais, le réflexe des fois de demander quand même, tu sais, l'opinion psychiatrique puis d'essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé puis qu'est-ce qui était, tu sais, c'est pas nécessairement mauvais. Après ça, c'est au psychiatre de faire l'expertise puis de pouvoir éclairer la cour. Puis des fois, c'est pas nécessairement non plus d'arriver à un verdict de non-responsabilité criminelle, mais c'est juste de dresser un portrait puis d'être capable de que la cour puisse mieux comprendre puis c'était quoi les facteurs aggravants, les facteurs atténuants, puis après ça, ben, tu sais, poser un verdict puis de donner une sentence qui va refléter un peu, dans le fond, le cas de la personne.
Puis peut-être d'aider la personne par la suite, là, tu sais, si elle commence à être suivie ce qui est entré.
Moi, j'ai une question un peu plus technique. Est-ce que vous pouvez faire la psychiatrie légale, genre à temps plein? Est-ce que c'est une sous-spécialité de la psychiatrie qui est assez occupée pour que tous les jours de la semaine, ça soit ça?
Ben oui, tout à fait. En fait, tu sais, il manque de psychiatres légistes au Québec. C'est une nouvelle spécialité, hein. C'est juste depuis 2013 que c'est une surspécialité du Collège Royal. Je ne sais pas, on est combien au Québec? On n'est pas si nombreux, là. On est moins d'une cinquantaine, alors qu'on est plus de 1000 psychiatres au Québec. Mmh. Donc, c'est vraiment une petite proportion des psychiatres. Puis, il y a quand même plusieurs hôpitaux au Québec qui offrent des services de psychiatrie légale avec des débits, là, plus ou moins importants. Fait que c'est sûr que quelqu'un qui va être occupé à temps plein peut s'occuper. Peut-être dans les régions très éloignées, moins, là, qui n'aura pas une pratique exclusive. Mais il y a quand même, il y a place pour la relève.
Puis, c'était comment, est-ce que quand vous êtes rentré en résidence, vous saviez que vous vouliez aller en psychiatrie légale?
C'est super intéressant au niveau de votre question. C'est que quand je suis rentré à la résidence, bon, j'avais eu mon parcours à Pinel comme externe, j'avais fait d'autres stages, je savais que la psychiatrie, c'était pour moi. Mais il y avait toute cette notion-là de, quand on commence la résidence en psychiatrie, c'est une résidence de 5 ans, hein, mm-hmm. où il y a différentes étapes, il y a un certain parcours à suivre. Puis quand on est tôt dans le parcours, c'est très difficile d'être exposé au légal. Ceci étant dit, tous les psychiatres vont faire un petit peu de légal, dans le sens qu'ils vont passer devant le tribunal administratif du Québec avec certains patients, les ordonnances de soins et autres. Mais des fois, la vie fait que tu es ramené sur un chemin qui te rappelle certaines expériences. Moi, c'est comme ça que j'ai rencontré le docteur Bordua-Pagé. J'ai pris un stage de réadaptation à l'Institut universitaire de santé mentale de Montréal, l'ancien Louis-Hippolyte Lafontaine. Puis, j'avais aimé dans la description de stage, j'avais un volet légal. Fait que je me suis dit, ça va être une façon par la bande d'aller faire ça. Puis là, je suis rentré sur l'unité, une équipe extraordinaire, des patients extraordinaires aussi. Puis là, pour moi, ça a ramené tout plein de souvenirs. Puis là, ben, j'ai eu la chance, Dr. Bordua m'a proposé de l'accompagner pour certaines expertises, pour voir un petit peu le processus et autres. Puis là, de me dire, ouais, non, c'est ça que je veux faire. Tu sais,
on l'a convaincu.
Ouais.
Fait que c'était plus vers la fin. Puis, c'était comment... On dit souvent que la résidence, c'est difficile. Puis pour les auditeurs en ce moment qui hésitent, tu sais, 5 ans, c'est quand même une grande partie de la vie. En général, comment vous avez vécu ça un peu, ces 5 années de résidence-là?
C'est 5 très belles années, je dirais. Là, je suis dans ma 5e année de résidence. Oui, c'est difficile. Oui, il y a des passes difficiles. La résidence, bon, on change le chapeau d'apprenant qui prend moins de place. Puis là, on a le chapeau de clinicien qui commence avec tout le bagage qui vient avec. T'sais, la première fois que tu prescris du Tylenol, c'est ton nom qui a sa feuille. S'il arrive quelque chose, c'est toi.
Ça reste stressant même si c'est
ça reste stressant, c'est ça. Fait qu'il y a plein de nouveautés dans la résidence, puis il faut accepter de vivre avec ça. Puis on se découvre aussi à travers la résidence. Donc, on est soumis à certains scénarios cliniques et autres où on est amené à tranquillement nous demander de plus en plus notre opinion puis nous amener à avoir une certaine autonomie. Donc, c'est rarement vitesse grand V. On commence R1 avec des attentes qui correspondent à un R1, puis rendu dans le R4, R5, on a plus d'autonomie. Moi, je l'ai bien vécu dans le sens, je pense que c'est important à la résidence de s'entourer de personnes, autant au niveau de patrons, de modèles de rôle qui ont passé à travers ça, puis que quand tu as des moments difficiles, tu as des questions et autres, tu peux aller vers ces personnes-là, puis autant de s'entourer de collègues, que ça soit dans la même résidence ou dans d'autres résidences, des collègues qui comprennent ta réalité, puis d'avoir un cercle en dehors aussi de la médecine pour être capable de dire « j'y décroche ». Il existe autre chose, parce qu'à la fin de la journée, on a beau aimer ça, être passionné, c'est un travail.
Mm-hmm.
Fait que je trouvais que la résidence en psychiatrie, par exemple, c'est une résidence qui est très humaine, puis qui valorise beaucoup l'aspect qu'on travaille, le volet social aussi avec les patients. Donc, il y a une grande ouverture à faire d'autres choses en dehors de la résidence. Il y en a plein qui font des parcours en histoire de l'art, en musique, dans d'autres domaines. Fait qu'il y a cette place-là pour découvrir d'autres aspects de la vie, qui vont finir par être importantes dans la pratique parce que quand on connecte avec nos patients, ça nous donne des sujets de conversation, ça nous donne une certaine profondeur, puis on gagne à travers ça. Moi, j'ai vraiment trippé sur ma résidence. Puis de façon générale, en tout cas, je peux parler pour l'Université de Montréal, là, les gens apprécient beaucoup leur résidence.
C'est bon à savoir, ouais, c'est encourageant.
C'est
puis sinon, s'il y a un aspect de votre métier que vous aimez un peu moins, que vous êtes comme « Ah, ça peut-être je le changerais. »
Spontanément, les notes. Oh, c'est épouvantable, les notes.
Bien, en fait, c'est le manque de support informatique. tu sais, dans les, justement pour les notes, puis à combien de fois est-ce qu'on répète les mêmes affaires dans nos notes, puis tout ça, tu sais, qu'on voudrait que ça ait comme un canevas copier-coller, là, ça doit se faire, mais je trouve que ça, tu sais, tout le, il y a beaucoup de paperasse dans notre travail, là.
Ça, c'est quand c'est informatisé, parce que la majorité du temps, ça ne l'est pas, puis c'est un item. Mais pourquoi est-ce qu'il faut recopier 120 000 fois les antécédents du patient? Puis même pour le patient, je trouve que c'est pas le fun, parce que de se refaire reposer continuellement les mêmes questions, c'est un irritant qu'on a de plus dans le système actuel.
Puis, ben, tu sais, autant j'aime le volet d'aller au tribunal, la cour, puis tout ça, mais autant ça peut représenter un irritant aussi des fois. Puis je pense que, parce qu'on n'a pas toujours la même compréhension, puis on réfléchit pas de la même façon.
Que les autres professionnels, mettons, dans le milieu du droit. Ben,
que comment la cour réfléchit, puis tout ça. Fait que ça, des fois aussi, tu sais, je pense que il y a des réflexions en cours là-dessus, mais de comment optimiser le système judiciaire pour nos patients, dans le fond. Fait que ça, tu sais, des fois, ça peut amener certains irritants. Des fois, comme tu sais, quand on va à la cour pour demander une ordonnance de traitement, on est vu un peu comme un expert, mais en même temps, on est là pour notre patient. Puis si on va là, c'est déjà... La majorité des psychiatres n'aiment pas ça, faire ça. On va là parce qu'on est convaincu que c'est bon pour le patient, mais là, des fois, on a l'impression que c'est nous qui se faisons interroger comme si c'était nous qui étions coupables de quelque chose. Tu sais, ça, des fois, ça devient comme un petit peu plus lourd. Puis, tu sais, les délais, puis des choses qu'on contrôle moins. Mais, tu sais, c'est mineur. C'est mineur, je dirais. Ouais, on n'y va pas tous les jours et tout. Là.
Puis, vous avez parlé d'être humble, mais est-ce qu'il y a d'autres caractéristiques que vous diriez à un étudiant qui va aller en psychiatrie? Ça, faut pas mal que tu aies ces caractéristiques-là.
Ben, il faut aimer l'être humain. Il faut avoir des capacités relationnelles, je pense. Aimer connecter avec l'autre, parce que c'est ça notre instrument de travail. Là. On a mis de côté notre sarrau, notre stéthoscope, on a juste nous-mêmes. Là. Fait que, tu sais, je pense que c'est primordial pour moi que tu aies envie de connecter avec la personne devant toi, puis que tu sois... sociable.
Je pense que ça prend un côté émotionnel ou une intelligence émotionnelle assez forte. Parce qu'en psychiatrie, ben, t'sais, comme dans toute relation humaine, on va vivre des choses. Puis c'est d'apprendre progressivement à utiliser ce vécu-là comme outil d'aide à la compréhension de ce qui se passe, d'aide à la formation de l'alliance thérapeutique. Fait que ça, je pense que c'est quelque chose d'important. Quelqu'un qui est très cérébral, très robotique, peut trouver son compte. T'sais, la psychiatrie, c'est très vaste. Il y a plein de domaines. Dans certains domaines, ça s'y prête très bien. Mais je pense que de façon générale, ça prend cet aspect-là d'émotion. Ça prend de l'écoute aussi. Puis tantôt, j'ai mentionné travail d'équipe. Ouais. Ça, c'est super important. C'est pas une spécialité solo. Quelqu'un qui n'aime pas travailler en équipe, ça ne fonctionnera pas. Puis c'est ça, il faut être créatif, il faut sortir de la boîte, puis il ne faut pas avoir peur de sortir de la boîte.
Mais pour connecter, pour l'aspect de connecter avec les autres, puis l'intelligence émotionnelle, en tout cas, je dois dire que j'ai tellement vécu des moments forts là, pendant mon stage en psychiatrie. Des fois, ça prenait... C'est 15 minutes que comme le résident ou le psychiatre était avec le patient, puis moi, puis là, il y a comme une connexion tellement forte qui se fait en peu de temps, puis là, le patient, il s'ouvre là, comme si ça fait, tu sais, comme si c'était quelqu'un qu'il connaissait depuis toujours, quasiment, tu sais, des confidences, puis des émotions, là, j'étais vraiment sous le choc là, de ce qu'on peut vivre.
Il y a des moments qui sont comme un peu magiques des fois, tu sais, puis encore régulièrement, là, tu sais, quand t'es à l'urgence, puis tu sais, t'évalues quelqu'un, puis tu sais, quand t'arrives comme ça là, à faire ouvrir la personne, puis que tu sais, t'arrives à connecter, puis tu sens que la personne, elle va ressortir en étant mieux outillée, en connaissant plus sa problématique. Puis tout ça, tu sais, il y a des moments que je continue à trouver après. Là, tu sais, ça fait depuis 2010 que j'ai gradué. Ça fait que ça fait 13 ans que je suis en pratique, puis je continue encore à trouver ça magique à certains moments.
Ah ouais, c'est important ça d'avoir encore des moments où on se souvient de notre purpose un peu.
Oui, effectivement.
Ans, je trouve ça beau.
Puis j'ai souvent entendu des gens aussi après leur stage qui disaient que ils réfléchissaient un peu sur eux-mêmes aussi beaucoup. C'est un stage que je faisais. Quand tu parlais d'intelligence émotionnelle, j'ai l'impression que ça te force aussi, même juste quand tu es exposé à ça, de dire, OK, moi, c'est quoi mes biais? Comment je réagis? À quoi?
Mais il faut toujours être attentif. Vous avez sûrement vu ça là, dans le transfert, le contre-transfert, de toujours essayer d'être à l'écoute de là, comment le patient me fait sentir, puis comme de ne pas agir là-dessus, puis pourquoi il me fait sentir comme ça. Fait que, tu sais, on a tout notre questionnaire en tête, mais il faut tout le temps qu'on sorte aussi un peu du questionnaire pour s'auto-analyser, OK, qu'est-ce qui se passe en ce moment, puis là, de revenir dans l'entrevue. Fait que, tu sais, c'est quelque chose qu'on fait de façon un peu intuitive avec le temps, mais qui s'apprend. Mmh. Puis je pense qu'on est aussi confronté à, tu sais, des fois, les gens disent, mais tu n'es pas déprimé à force d'entendre tout le monde se plaindre, puis être déprimé, tout ça. Fait que, tu sais, je pense qu'il faut être capable de balancer, d'avoir une certaine armure, de ne pas tout prendre sur soi, mais de rester empathique à l'autre. Puis ça aussi, c'est quelque chose qui, je pense, se travaille, mais qu'il faut aussi, comme, bien se connaître puis être capable d'avoir une autocritique sur soi-même aussi. Mmh. Là. À l'époque, les résidents devaient faire une psychothérapie, c'est plus obligatoire.
Ah ouais,
mais non, mais il y a longtemps, là, ouais.
C'est encouragé, mais il y a tellement plus de ressources
pour la psychothérapie. On les laisse pour les patients.
On se pratique entre eux.
Ouais. Ben, on se pratique entre nous pour vrai, parce que dans les débuts, maintenant, dans la résidence, quand on apprend la psychothérapie, on a des ateliers qui s'appellent des practicums. Donc, on est deux résidents, puis c'est confidentiel. T'sais, on ne parle pas du contenu de ces séances-là. Il y a un résident qui va jouer le thérapeute, un ou une résidente, puis même chose, un qui va jouer le rôle du patient devant l'ensemble des collègues et le professeur, et on va parler de vraies situations.
Oh.
Pourquoi? Pour générer de l'inconfort, pour générer des émotions, puis pour pratiquer un peu de ben, comment j'ai reçu ça, comment je me suis senti, puis pratiquer un petit peu ce transfert-là, mm-hmm. sous supervision. Donc, comment tu aurais pu réagir autrement? Pourquoi tu t'es senti comme ça? Ah, ça t'a rendu mal à l'aise de t'ouvrir quand on te l'a demandé devant le groupe. Pourquoi ça t'a mis mal à l'aise? Toutes des réflexions qu'on ne fait pas dans le quotidien. C'est
que le patient peut se faire.
Je n'entends pas de vous parler, je ne vous parle pas.
Ouais, c'est ça.
Mais dans un contexte de psychothérapie, on est dans une position où on ne sait pas ce qui va sortir, puis on ne sait pas comment on va réagir face à ce qui va sortir. Mmh. Puis ça, on est coaché un peu là, pour les bases.
J'ai l'impression aussi d'avoir l'aspect du patient, c'est tellement pertinent parce que ça doit être aussi difficile de s'ouvrir, là, tout comme ça. Puis c'est un peu ça qu'on leur demande en psychiatrie, c'est d'arriver, puis finalement, ouvre-toi à moi.
Tu sais, ouais.
À quelqu'un que tu ne connais pas, que tu n'as jamais vu de ta vie. Puis,
Des questions super personnelles, des fois.
Ouais.
Mmh. Puis. Ça me faisait penser, tu sais, transférence contre-transférence, dans un milieu avec des gens qui ont fait des crimes, ça doit des fois être encore plus important de se le dire, j'ai l'impression.
Oui, bien ça, c'est fascinant parce que je trouve que, tu sais, quand on évalue un surtout dans les cas d'expertise ou quand on évalue un dossier, tu sais, des fois, on voit tout le rapport de police, puis tu sais, ça m'est arrivé là, de dire, ouf, mon Dieu, tu sais, quel être abject, puis on va pas évaluer, tu sais, ce patient-là, puis tout ça, puis... T'sais, encore une fois, c'est un peu la magie qui s'opère. T'sais, après ça, tu arrives, tu es devant la personne, ben, tu te fais raconter son histoire, puis tu veux essayer de comprendre. Puis là, tu n'es plus en mode, c'est plus juste des actions, c'est vraiment qu'est-ce qu'il a fait que dans toute son histoire personnelle, dans son histoire développementale, dans sa vie, comment ça se fait qu'il en est arrivé à ça. Puis là, on n'est plus de... T'sais, après ça, ben, c'est là qu'on a connecté avec le patient aussi, puis on est capable d'empathie envers lui, parce que des fois, même si on fait des délits affreux, bien, des fois, il y a des circonstances de vie, il y a des choses qui peuvent expliquer pourquoi ils sont là, surtout quand ils demandent une expertise. Tu sais, souvent, il y a des enjeux de santé mentale quand même aussi. Là, on n'est pas face à un tueur à gages qui a tué juste parce qu'il y avait eu un contrat. Là. Fait que, tu sais, souvent, il va y avoir des choses qui vont résonner pour nous puis qui vont faire en sorte qu'on voit vraiment la personne dans son ensemble et pas juste les actions qu'ils ont posées.
Oui. Puis... Ça me fait penser à un autre feeling que j'avais eu pendant mon externe. C'est justement, je pense, des gens qui ont des problèmes de santé mentale, puis j'imagine encore plus dans le milieu légal, ils ont des parcours des fois que c'est comme horrible. Puis les choses que j'entendais des fois de les situations de vie, je trouvais ça vraiment lourd là, à la fin de la journée. Puis justement, on a une empathie envers ces gens-là. Fait que des fois, je trouvais que c'était quand même un poids à porter à la fin de la journée. Comment vous dealez avec ça, vous?
Bien. C'est aussi de comprendre c'est quoi nos limites à nous, puis c'est quoi les limites du système. Moi, quelque chose que j'ai trouvé très, très dur, c'est que pendant une partie de la résidence où on commence à être exposé à la psychiatrie, parce que le R1, quand moi j'étais R1, on commençait avec la médecine physique rapidement. Puis on voyait dans certains stages, toutes les ressources se déploient et autres. Puis on arrive dans le stage de psychiatrie, puis là, oups, ça peut être aussi simple qu'un homme ou une femme de 18 ans, 19 ans qui arrive, premier break-up amoureux, qui est à l'urgence pour des symptômes dépressifs. L'urgentologue nous demande parce que c'est pas de médecin de famille, puis il n'y a pas... Puis là, tu t'assois avec la personne, tu découvres tout un parcours de vie extrêmement difficile, en plus de la rupture qui est là. Tu te dis, le meilleur traitement, ça serait un soutien psychologique maintenant. Mmh. Ouais, c'est 6 mois d'attente. Là, tu es pris avec ça parce que tu dis, je sais c'est quoi le meilleur traitement pour ce patient-là. En tout cas, j'ai une idée de ce que c'est le meilleur traitement. Je ne peux pas l'offrir. Puis on est aussi dans une société où si tu veux aller plus vite à ce traitement-là, il faut que tu payes. Mm-hmm. Parce qu'il y a le volet privé. Donc, ça, c'est des dilemmes que moi, ça m'avait touché personnellement au début. Puis on développe une certaine carapace à force de voir des situations qui sont similaires. Je trouve que c'est plate parce qu'on devrait pas, on devrait continuer d'être sensible à ça. Puis je pense qu'on le reste sensible à ça, mais ça nous affecte moins parce qu'on la développe, cette carapace-là, puis on n'a pas le choix de la développer parce qu'il y a des choses qu'on contrôle pas. Puis en médecine, on aime beaucoup tout contrôler, mais il faut accepter qu'il y a des cartes que c'est pas à nous de les jouer, malheureusement. Puis on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a.
Puis je pense que tu parlais tantôt d'avoir d'autres intérêts aussi, puis je pense qu'il faut avoir un équilibre aussi, tu sais, puis donc avoir des loisirs, des amis, être capable de décrocher aussi quand tu sors du travail, puis prendre des vacances régulièrement. Parce qu'à un moment donné, mais c'est vrai, parce que tu sais, c'est tellement demandant. Tu sais, c'est pas demandant en termes de nos horaires de travail. Tu sais, c'est sûr qu'on se lève pas là, aller faire opérer toute la nuit puis tout ça, mais tu sais, c'est tellement drainant au niveau justement, tu sais, psychologique, émotionnel et tout, qu'on a besoin d'avoir des moments où tu sais, recharger nos batteries pour rester empathique puis d'être capable de rester à l'écoute de l'autre. Fait que ça, j'avais un patron qui m'avait dit ça quand j'étais résidente. Quand je lui avais demandé des vacances, il m'avait dit non seulement je t'y autorise, mais je t'y encourage. Puis c'est bien, je pense, de se permettre toujours comme ça d'avoir des moments où là, tu sais, on recharge les batteries puis de viser un équilibre.
On reste juste meilleur, c'est ça, dans ce qu'on fait. Ouais. Le ça à l'écoute et tout.
Puis pour plus longtemps, sûrement aussi, tu sais. En prenant des vacances, des petits breaks, ça permet de continuer à faire ça.
Il y a beaucoup de psychiatres qui travaillent très longtemps. Je pense qu'on est une spécialité où, probablement avec l'intérêt, tu sais. Je pense, quand on disait, si on reste intéressé longtemps, je pense que quand on choisit ça, on aime ça, puis on aime ça longtemps. Mais, ouais, fait que si on veut prendre des retraites tardives, il faut se préserver.
Tant que ça continue à bien fonctionner ici, c'est ça, on n'a pas besoin, on a beau trembler et autres.
C'est vrai.
On est notre propre outil, donc.
C'est par votre voix que vous guérissez.
C'est ça.
Sinon, est-ce que vous avez un dernier conseil pour les étudiants qui nous écoutent, qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire, qui sont un peu perdus, puis qui regardent à droite, pas à gauche, puis sont indécis?
Bien, c'est une très bonne question dans le sens que tous les choix sont bons et tous les choix sont mauvais. L'important, c'est de prendre le temps de bien se connaître. Puis des fois, on arrive à une étape de la formation où on le sait pas encore. Puis c'est normal. Tu sais, et moi, je me souviens là, dans ma cohorte, là, il y avait un paquet de gens, puis c'est correct, là, qui s'inquiétaient au préclinique. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Qui arrivent à l'externat, je sais pas qu'est-ce que je vais faire. C'est de commencer à un petit peu classifier. Tu sais, est-ce que je suis plus médical ou chirurgical? Est-ce que j'aime mieux une approche globale ou une approche très spécifique? De prendre ces petites cases-là puis d'essayer de se dessiner un chemin, de se permettre d'essayer des choses puis de se permettre de se tromper puis de changer d'idée. C'est sûr qu'il y a un système, tu sais, le karma, c'est pas facile, c'est stressant, on haït tout ça, mais de se dire, c'est pas parce que j'ai pas matché dans ma spécialité que je peux pas avoir une belle carrière. C'est pas parce que j'ai matché dans une spécialité que je suis obligé de faire ça comme carrière. C'est de se dire qu'il y en a des options, puis ils sont là les options, puis de s'enlever un petit peu toute cette pression-là, surtout qu'il y a un gros morceau qu'on contrôle malheureusement pas.
C'est bien dit.
Oui, puis je pense aussi d'essayer de se projeter à plus long terme quand même, tu sais, pour voir est-ce que je pense que c'est quelque chose que je vais aimer quand même dans le temps. Puis moi, j'avais eu un conseil à un moment donné de voir, tu sais, c'est quoi le bread and butter, puis est-ce que ça, je vais être vive bien avec ça? Parce que, tu sais, toutes les spécialités vont avoir leur cas, tu sais, comme crunchy puis super stimulant, mais c'est pas la réalité du quotidien. Puis d'aborder, je pense, la médecine puis l'externat vraiment avec une ouverture, puis de se dire, tu sais, à un moment donné, tu sais, c'est des mentors que tu rencontres, tu sais, c'est des gens inspirants, puis à un moment donné, c'est de se laisser la porte ouverte aussi à vivre des coups de cœur, puis à se dire, ah oui, tu sais, ça, je pense que je vais le voir, puis à un moment donné, il me semble, je pense que tu finis par le sentir un peu, je pense que là, je suis à ma place, puis il n'y a rien de définitif dans la vie, puis des fois, il faut faire confiance à la vie. Moi, je pensais que c'était fini là, d'aller faire ma résidence à Sherbrooke. Là, mon Dieu, comment je vais survivre? Puis, tu sais, j'ai rencontré des super amis, des mentors, puis tout ça. Fait que, tu sais, je pense que des fois, il faut aussi faire confiance, puis se dire, bien, on l'essaie. Puis, dans le pire des cas, ben on a le droit aussi de dévier de notre route puis de se permettre de choisir autre chose plus tard.
Cette histoire-là de coup de cœur, je pense que c'est la spécialité aussi que j'ai plus souvent entendu cette histoire-là de la part des résidents.
Ah ouais?
Des résidents qui étaient mindés sur une affaire, qui s'en allaient pas, puis ils ont fait leur stage en psychiatrie, puis soudainement, tout était éclairé. Fait que je pense qu'il faut en rester ouvert d'esprit en psychiatrie. Moi, c'est ce que j'ai retenu, en tout cas.
Puis on reste des vrais médecins. Parce que, tu sais, des fois, les gens aussi disent « Ah, ben là, t'es pas un vrai docteur, t'es psychiatre. » Mais je pense que, tu sais, c'est le fun parce qu'il y a quand même tout le volet très médical de la psychiatrie. Fait qu'on reste...
Très pharmacologique aussi.
Très pharmaco. Puis, tu sais, c'est vrai qu'on n'a plus de stéthoscope. Mais le nombre de pathologies physiques pour lesquelles il y a des manifestations psychiatriques ou de gens qui vont vivre des problèmes physiques, que ce soit des cancers ou d'autres gros événements, des accidents d'auto et autres, ça se peut que dans leur parcours, il y ait besoin d'un psychiatre. Puis, ce qui est le fun de la psychiatrie, c'est qu'il faut avoir une connaissance globale de ces différentes pathologies-là. Pas obligé d'aller dans le détail très pointu. Mais un patient qui a, par exemple, un cancer du sein, mais c'est quoi le cancer du sein? Qu'est-ce que ça représente? C'est quoi les traitements en arrière de ça? C'est quoi les grosses étapes à travers de ce traitement-là? Puis, il y a des psychiatres qui vont développer leur expertise là-dedans, qui vont faire ce qu'on appelle la consultation liaison et qui vont avoir une expertise dans l'interface entre tout le volet physique, organique, puis le volet psychique, là, psychiatrique.
C'est vraiment intéressant. Ouais, encore beaucoup à découvrir.
Vraiment. Merci beaucoup.
Ça nous a fait plaisir.
Merci à vous.
Merci.